Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Le terrorisme est dans les journaux ce matin.
Oui, pour une actualité qui est tissée de sang et de fantômes. Le sang de Marseille, c'est la une de la Provence. Le choc, celle du Parisien, de Nice matin. Et puis les fantômes de Toulouse et Montauban, des 7 victimes de Mohamed Merah en 2012, que ranime le procès de son frère. Dans La Croix, dans La Dépêche, dans Le Parisien, on entend des voix fragiles qui tutoient ces fantômes. Ce sont les voix des familles des disparus. Je ne suis nulle part. Ma petite est au ciel, moi je ne suis ni là-bas, ni ici, je ne suis nulle part. C'est ce que dit dans La Croix Yaakov Monsonego, le directeur de l'école juive Otsar Ratora, dont la fille Myriam fut assassinée à l'âge de 7 ans. Il survit, lit-on, pour construire un maximum d'enfants. La Dépêche le décrit plongé dans des textes sacrés. Il étudie sans jamais se convaincre de ce qu'il vient de lire. Ce qu'il apprend est toujours remis en question et l'on devine que chez cet homme, la vérité se dérobera toujours. Je me demande souvent où était le bon Dieu ce 19 mars, dit dans La Croix Samuel Sandler. C'est le père de Jonathan, le grand-père de Harrier, 5 ans, et Gabriel, 3 ans, qui avait encore une tétine à la bouche le jour de sa mort. Il y a dans tout ce qu'on lit aujourd'hui une dimension spirituelle, tant Merah, paradoxalement, a frappé des familles souvent pieuses. Albert Chenouf, le père du caporal Abel Chenouf, porte haut sa foi chrétienne, lit-on dans La Croix. En Israël, Eva Sandler a ouvert un centre talmudique qui porte le nom de son époux. En France, la famille du soldat Mohamed Le Gouade subit, dit son avocat, une double peine. À la souffrance d'avoir perdu Mohamed s'ajoute le fait d'appartenir, en tant que musulman, à une communauté de plus en plus stigmatisée. C'est dans La Croix et l'on apprend que Gemma, la maman de Le Gouade, et sa sœur Radia voudront aussi au procès témoigner de l'islam paisible de leur frère. Voilà, on parle de Dieu et puis on survit parmi les hommes. Le caporal-chef Loïc Libert a ainsi survécu à ses amis Abel Chenouf et Mohamed Le Gouade. Il est tétraplégique. Il parle dans Le Parisien de ses modestes victoires. Il respire seul, il bouge un peu les épaules. Mais il dit surtout ceci, Loïc Libert, et c'est à entendre au moment où un procès démarre, qui ranime aussi Mohamed Merah, le procès du salafisme, lit-on dans La Dépêche. Il dit, Libert, qu'il ne veut pas prononcer le nom de son bourreau. C'est un lâche, son nom ne m'intéresse pas, c'est un type dégueulasse. Et ce refus, on l'entend aussi chez Latifa Ibn Ziaten, la mère d'Imad dans La Dépêche. J'ai le sentiment qu'on a oublié toutes les victimes et qu'on ne parle que de Merah. On l'entend enfin chez Samuel Sandler dans La Croix. Privons de nom ceux qui nous ont privés de vie, mais comment pouvons-nous lui obéir, nous, journalistes?
L'attentat de la gare Saint-Charles, Claude, est l'autre sujet des journaux.
Et on est ici dans une horreur symétrique à celle de Toulouse, des années avant un deuil inextinguible, mais dans l'effroi immédiat. L'effroi, c'est le mot du Parisien, du premier sang. On entend cet effroi dans La Provence, le journal de Marseille. Je cite, « Le ballet mortuaire observé à Paris, à Nice, s'organise ici, sur ce parvis qui surplombe fièrement Marseille. Périmètre de sécurité, évacuation de centaines de visages hagards, pompiers s'acharnant en vain pour amener à la vie. Le choc est fait de l'insoutenable banalité des scènes d'horreur. » On n'est pas encore à ce stade où les journaux peuvent raconter vraiment dans leur humanité les deux victimes. On lit alors simplement la description d'une panique et aussi en tournant les pages, on voit la cruauté involontaire d'une vie qui reprend, qui n'a jamais cessé. Dans La Provence, on parle également d'une victoire de l'OM contre Nice, quelle remontada, ou de l'échec commercial de Dog Village, un ensemble commercial qui devait être gentrifié la ville. C'est la vie qui reprenait même gare Saint-Charles après le drame. Ainsi, cette passagère pressée de prendre son train, citée dans La Provence, 3 heures pour enlever les corps, ça va suffire? Non, disait-elle. Il y a aussi classiquement les discours qu'un drame produit. Que ces militaires anonymes de la force Sentinelle soient remerciés, écrit Le Parisien dans un éditorial qui tire aussi le drame vers les disputes sécuritaires. On entend parfois des voix s'élever pour dire que le danger est exagéré et que l'on vit dans un état policier. Des voix qui pourraient réfléchir à se faire plus nuancer. Curieusement, Le Parisien est corrigé par un autre éditorial dans La Provence. Il s'appelle « Résister ». Marseille devra s'engager sur la seule voie possible, écrit le journal. Résister à la peur, résister aux polémiques résurgentes. Ainsi, un journal prend le deuil en essayant de ne pas en être dupe.
8h35, Claude, le référendum catalan s'impose aussi évidemment dans les journaux.
Oui, il est la une de La Croix, la une du Figaro, la une de l'Humanité, de Libération, le coup de force pour Libération qui vise le gouvernement de Madrid, la une aussi de l'Indépendant, le journal de Perpignan, vote sous violence, et l'Indépendant raconte en voisin le vote de rupture des communes de Portbou, Puigcerda ou Massanet de l'autre côté de la frontière. Libération et l'Indépendant accompagnent le mouvement catalan, le Figaro donne la parole aux défenseurs de Madrid et puis curieusement fait le lien entre le drame catalan et la grogne de nos régions contre le gouvernement d'Emmanuel Macron. En France, voyez-vous, on ne veut pas rompre avec Paris, dit le Figaro, mais on a peur de l'abandon. Dans l'opinion, Éric Le Boucher se désespère dans un texte très posé sur le triomphe de l'émotion irrationnelle. Il s'interroge sur la victoire des identités, ces mauvaises passions enfouies. Nous vivons avec, bien au-delà de la Catalogne.
Et un mot, un témoignage, Claude, rapidement dans l'équipe, enfin.
Oui, un témoignage terrifiant d'un homme. Il s'appelle Jean-Claude Buisine. C'est un stadier lillois qui a échappé samedi soir à l'effondrement d'une barrière de tribune à Amiens. Il décrit, Buisine, ce que l'on fait aux supporters de football dans ce pays, parqués dans des espaces réduits, des tribunes bricolées. On avait signalé que la grille bougeait, disait-il, et finalement, ces supporters gazés par des CRS après l'accident. Il décrit aussi ce que ces supporters se font eux-mêmes en cherchant un affrontement après le drame et l'ayant peut-être précipité en se jetant contre le grillage. Tout ceci est étrange à évoquer au temps du deuil. Nous parlions, disions-nous, de passion mauvaise.
Claude Askolovitch, merci pour cette revue de presse.